Radio Kapi. Oh, Kapi.
Pascal Masirika pour les journaux.
Les titres de l'actualité ce midi, une attaque des rebelles ougandais de l'ADF a coûté la vie à 12 civils hier soir à Beni, non loin de là, en Ituri. Des hommes armés ont tué 6 civils et un soldat des FARDC ce mardi matin à Fichama, dans les territoires de Djougou. Au Kassai Central, la Coalition Nationale de l'Éducation pour tous lance une pétition pour obtenir la gratuité de l'enseignement en RDC. La démarche consiste à supprimer les frais dits des motivations des enseignants payés par les parents et d'autres frais connexes. Notre invité, c'est le chef d'antenne de l'Observatoire des médias congolais au Kassai Central, Elvis Kambantamboué, qui fustige les démarches observées, les dérapages observés dans la corporation, appelle les membres au respect du code d'éthique et de la déontologie. Madame, messieurs, bonjour. Ouvrons ce journal par le Nord Kivu où 12 civils ont été tués la nuit dernière lors des deux nouvelles attaques attribuées aux rebelles ougandais de l'ADF dans les territoires de Beni. La société civile locale dénonce la montée de l'insécurité qui a coûté la vie à 22 civils depuis 6 jours. Le point de la situation avec vous, Martial Papimukeba.
La première attaque est intervenue aux environs de 20h, heure locale. D'après des sources locales, un groupe de l'ADF a fait incursion à Mabasele, un quartier situé dans la partie ouest de la commune rurale de Wicha, chef-lieu du territoire de Beni. Les assaillants ont d'abord contourné les positions des FARDC, disent ces sources, avant de s'attaquer aux populations civiles. La société civile du territoire de Beni donne un bilan de 9 personnes tuées, notamment 4 femmes, 4 hommes et un bébé d'un mois, ainsi que 3 autres blessés par balle. Aux environs de 20h30, un autre groupe va faire incursion à Kasana, un village de la localité de Ringeti, voisine de Wicha. 3 civils seront tués et 3 autres blessés par balle, selon la société civile. Ces informations sont confirmées par les sources militaires qui précisent que les FARDC sont à la poursuite des assaillants. La société civile du territoire de Beni, qui dénonce la recrudescence de l'insécurité dans la région, parle des 22 civils tués depuis maintenant 6 jours au cours des attaques ADF. Beni, Martial Papimukeba, Radio Kapi.
Et en Ituri, 7 personnes ont été tuées et 5 autres grièvement blessées lors d'une attaque attribuée à des hommes armés ce mardi matin à Fichama dans les territoires de Djougou. Le chef de cette localité affirme que parmi les victimes, il y a 6 civils et 1 militaire des FARDC. Cette attaque a créé du coup la panique au centre commercial de Tchomia à Bounia. Martial Kizaibiamungu.
L'attaque a eu lieu vers 5h locale du matin. Un groupe d'hommes munis des machettes, flèches et fusils s'introduit dans la petite localité lacustre de Fichama, environ 70 km au sud-est du Bounia. Selon les chefs de la chefferie de Baïba Banyua Gikawa Pangamantro, ces assaillants ont utilisé 2 chemins, notamment Landa et Nyare, pour atteindre la position du commando FARDC déployé dans la zone. Un échange de tirs s'en est suivi. Certaines personnes ont été décapitées et d'autres tuées par balles. Les bilans provisoires fournis par le chef de la chefferie est de 6 morts parmi les civils, dont 3 femmes et 2 enfants, et un militaire FARDC qui a succombé suite à ses blessures. Ces assaillants ont également incendié plusieurs maisons des habitants. Bimbona Bakebuka, président de Jeunes de Tchobia, qui s'est rendu sur place à Fichama après l'attaque, dénonce ces tueries. Il demande à l'État congolais de prendre cette situation qui perdure au sérieux. Nous n'avons pas encore eu la réaction des FARDC à ce sujet. Pour rappel, 9 personnes ont été tuées le week-end au village de Nyala Nyala et Jiba, toujours en territoire d'Indjougou. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où une vive tension a régné ce mardi matin à Rugari, localité située à une 40aine de kilomètres nord de la ville de Goma, en territoire de Rutshuru. C'est au lendemain du décès de 2 personnes alors que 5 autres ont été blessées suite au tir des militaires FARDC basés à Rugari. Ce qui a provoqué du coup le déplacement de plusieurs habitants qui pensaient à des nouveaux affrontements avec l'un des groupes armés actifs dans la zone. Le point avec vous, Bernard Dindiambou.
Tout a commencé vers 9h locales dans le village Kakomero lorsqu'un militaire poursuivait un suspect qui revenait du champ selon des sources dans la zone. Les militaires auraient tiré sur le suspect qui a trouvé refuge dans une des maisons. C'est alors que d'autres militaires se seraient mis à tirer plusieurs coups de balles. Ça n'est suivi un concert de balles qui aurait duré au moins 5 heures selon la même source qui ajoute que les militaires loyalistes se seraient alors mis à fouiller les maisons des habitants tout en tirant des balles. Ils auraient également pillé dans des habitations. Deux femmes ont été tués et 5 autres personnes gravement blessées par balles. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital général de référence de Rutshuru pour des soins appropriés. Nos sources ajoutent que les militaires accuseraient la population dans la zone de collaborer avec l'ennemi dont les FDLR et les Niatora. Certains habitants ont fui vers Rumangabo et Kibumba, d'autres vers la paroisse catholique de Rugari. Ce matin, un retour timide de quelques habitants est observé à Rugari, mais la majorité de la population aurait peur de retourner, affirme la société civile. Le commandant du secteur opérationnel Sokola 1 s'est rendu ce mardi sur place à Rugari, affirme le major Njike Kayiko, porte-parole de 34e région militaire. Goma, Bernardine Diambou, Radio Okapi.
En plus bref, ici à Kinshasa, le corps sans vie d'un homme a été découvert ce mardi matin sur l'avenue Bobila au quartier Joli Parc dans la commune de Ngaliema, non loin de Kintambo magasin. La police de Kintambo 2 parle d'une victime identifiée comme un chauffeur de taxi Ketch résident à Yolo Sud dans la commune de Kalamu. Le corps qui porte une blessure à la nuque a été mené par la Croix-Rouge à la morgue de l'hôpital général. La police ajoute qu'il s'agit du 4e cas du genre à cet endroit depuis le début de l'année. Pour mémoire, un autre corps sans vie d'un homme identifié comme un chauffeur de taxi Ketch avait été abandonné il y a 10 jours non loin de la station Total située en diagonale du camp militaire Tchatchi. Politique à présent. Les députés nationaux élus de l'Ituri s'opposent au divorce entre le FCC et Cash et appellent à la formation rapide du gouvernement central selon l'accord entre les deux partis en tenant compte de la représentativité nationale. C'est confiant à la presse hier lundi à Kinshasa. Ces élus ont plaidé pour que les Ituriens obtiennent au moins 4 ministères au gouvernement central. On écoute l'élu d'Irumu et membre du FCC. Les propos de Paul Babangu ou à Babou ont été recueillis par Michel Kifindangoy.
L'article 63 du Code civil, livre 3e, dispose que toute convention légalement formée tienne place de la loi aux personnes qui l'ont faite. Nous demandons à la famille Cash, comme nous sommes dans le cadre d'une coalition, qu'ils puissent respecter tout simplement la convention qu'ils ont signée avec l'FCC. Mais à l'hypothèse de parler de la cohabitation politique, je ne suis pas d'accord. L'article 52 de la Constitution dispose que la paix et la sécurité est l'apanage des gouvernements. Nous demandons au gouvernement congolais de prendre sa charge à ce que la paix puisse revenir en Ituri. Par rapport à la sortie prochaine du gouvernement, l'article 220 de la Constitution, au sein des premiers paragraphes, que le gouvernement de la République est représentatif. J'ose croire, cette fois-ci, l'Ituri aura vraiment sa part constitutionnelle.
Autre nouvelle sur Radio Okapi, la Coalition nationale de l'éducation pour tous lance une pétition pour obtenir l'instauration de la gratuité de l'enseignement en RDC. Au Kasaï central, précisément, le coordonnateur de la CONEPT indique que la démarche consiste à obtenir la suppression pure et simple des frais dits de motivation des enseignants payés par les parents et d'autres frais connexes. Rémi Sazumba s'est confié à François Kadima.
Les parents, il y a plus de 30 ans, ils continuent à financer l'éducation à une hauteur de 75% sur le budget national. Et donc, c'est cette pauvreté de parents qui y a motivé la Coalition nationale de l'éducation pour tous pour faire la pétition afin que le gouvernement puisse prendre ses engagements. La gratuité de l'enseignement est légale parce que la Constitution de la République ainsi que la loi cadre, voire même certains textes et même les textes que le gouvernement a ratifiés pour ainsi donner l'occasion pour cette gratuité. Cette pétition, elle est adressée à tous les citoyens, que ce soit les députés, les commerçants, les personnes vivant avec handicap, tous les habitants de la RDC, de la province du Kasaï central sont invités à signer cette pétition pour pousser l'autorité à prendre ses engagements et surtout à appliquer les textes légaux en matière de la gratuité.
À Calémi, pendant ces temps, les propriétaires des véhicules de transport en commun ont moins d'une semaine pour peindre leur véhicule en jaune. Par cette décision, la mairie de Calémi instaure également de nouvelles taxes à payer par les automobilistes. Une pilule amère pour les concernés. Une correspondance d'Expedi Mwambamoubi.
À travers ces deux communiqués radiodiffusés, la mairie de la ville de Calémi laisse entendre qu'elle ne fait que réactiver une ancienne décision. Cette décision est contenue dans l'arrêté urbain numéro 013 du 31 décembre 2018 portant révision et perception des taux des taxes sur la numérotation des moyens de transport en commun et sur la numérotation des motos dans la ville de Calémi. Outre l'obligation de repeindre en jaune les véhicules, la mairie vient d'imposer deux taxes. L'une sur la numérotation et identification des engins, ainsi que la taxe sur le stationnement. Pour l'Association des chauffeurs du Congo, en revanche, ces mesures ont du mal à passer, car elles coûtent cher. Swedi Kalunga, président de la SECO.
Stationnement
et numérotation, 75 000 francs. Pour nous, c'est trop cher. Nous ne gagnons presque rien. En ce qui concerne la peinture, poncer et repeindre, les techniciens demandent pour cela 200 $. Les propriétaires des véhicules ont 15 jours pour s'y conformer. Calémi, Expedi Mwambamoubi, Radio Okapi.
L'invité.
Notre invité ce midi, c'est le chef d'antenne de l'Observatoire des médias congolais au Kasaï Central, Elvis Kamba Ntambwe, fustige les dérapages observés dans la presse dans cette partie du pays. Il appelle les membres de la corporation au respect du code d'éthique et de la déontologie. Il s'entretient avec André Kambala Mujanaï, c'était hier à l'occasion de la journée nationale de la presse.
Elvis Kamba Ntambwe, bonjour.
Bonjour André.
Vous avez organisé aujourd'hui la commémoration de la journée nationale de la presse. Quelle a été la motivation de cette célébration?
La motivation c'est quoi? Vous aurez remarqué qu'ici chez nous, les journalistes, entre guillemets, parce qu'il y en a qui ne sont pas journalistes, qui sont arrivés dans la profession n'importe comment. Et il y a beaucoup de cas de dérapage. Le non-respect du code d'éthique et déontologie du journaliste, et nous le sentons tous les jours sur les antennes des radios locales. Donc nous avons tenu à rappeler à nos confrères, surtout les jeunes confrères qui viennent d'intégrer la profession, à les mettre au pas pour qu'ils puissent observer le code d'éthique et de déontologie du journaliste. Parce qu'ici chez nous, le journaliste a une très mauvaise réputation.
La ville de Kananga, plus d'une dizaine de chaînes de radio. Curieusement, les trois quarts des participants à la manif d'aujourd'hui provenaient de la RTNC. Comment vous expliquez ce déséquilibre-là?
Vous savez, André, que nous avions lancé des invitations. Nous comptions recevoir au moins 50 journalistes compte tenu des possibilités que nous avions. Donc nous avions envoyé des invitations dans toutes les chaînes de radio. Curieusement, les autres n'ont pas répondu. Ils ont boudé ou quoi, je ne sais pas. Vous avez remarqué que la plupart venaient de cette chaîne publique, la RTC et de l'ACP. Bon, ce n'est pas de notre faute.
Hein. En un seul jour, vous pensez vraiment relever les niveaux de journalistes parce que vous dites qu'il y a beaucoup de dérapages?
Non. Vous savez que l'idéal pour nous était d'organiser un atelier qui devait s'étendre sur 2 jours. Pour cela, nous comptions sur l'apport de l'autorité provinciale. Malheureusement, cet apport n'est pas venu. Et nous avons fait cette histoire d'une manière symbolique. Heureusement, on nous a promis, par une bonne volonté, que prochainement, ils comptent nous soutenir. Nous allons encore inviter les journalistes. Nous aurons un atelier de formation qui va s'étendre sur 2-3 jours.
Le Kasaï Central, ce n'est pas seulement la ville de Kananga, mais la manif qui a eu lieu ici n'a eu que la participation des journalistes de Kananga. Comment vous expliquez l'absence de ceux de Luisa et de Chimbulo?
Votre question est à sa place. Avant cette manifestation, nous avons préconisé effectuer une tournée d'identification et de sensibilisation des journalistes à travers nos 5 territoires. Malheureusement, faute de moyens, nous n'avons pas pu effectuer. Ce n'est qu'une partie remise. Nous comptons le faire prochainement.
Quels sont les dérapages principaux que l'OMEC observe, si vous permettez la tautologie, dans les chefs de jeunes journalistes de la province?
Nous avons dit le non-respect du code d'éthique et de déontologie. Vous savez, il y a l'article 7 acte qui dit qu'il ne faut jamais accepter de présent. Ce qu'on a toujours appelé le coupage. Ici, chez nous, cela s'est transformé en ce qu'on appelle le transport. Les amis arrivent là-bas, après avoir couvert un événement, ils dressent une liste où ils vont se bagarrer parce que chacun voudrait que son nom figure là-bas en attendant recevoir quelque chose. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas vraiment correct. Ça avilit même la profession noble des journalistes au Kassa Central. Donc, nous devons combattre. Ce sont des antivaleurs. Et puis, vous sentez sur nos chaînes, ce n'est pas vraiment l'information qu'on donne. C'est le culte de certaines personnalités. On loue n'importe qui. Même des non-événements sont rapportés à la radio. Non, ce n'est pas ça le journalisme.
En amont, vous condamnez tous ces dérapages-là, mais en aval, il semblerait que dans la plupart des médias, avant qu'une information ne passe, les responsables exigent ce que vous considérez comme présent là de la part des journalistes qui reviennent du reportage. Et lorsque le journaliste s'oppose, cet élément-là ne passe pas. Comment vous réagissez?
Ça veut dire qu'il n'y a pas même des rédactions dignes de ce nom dans ces chaînes de radio-là. Et ils ne respectent même pas leur cahier de charge. On ne sait même pas qui fait le commercial, qui fait vraiment le journalisme. Mais vraiment, c'est du fourre-tout, comme j'ai toujours dit. Donc, vous voyez, ces gens-là se cachent avec cette couverture-là de journalisme alors qu'ils font autre chose.
Pour terminer, plusieurs chaînes de radio sont fermées. Comment voyez-vous cette action? Est-ce que vous pensez qu'en fermant les chaînes, ça ennoblit la profession ou vous voulez que toutes ces chaînes-là fonctionnent? Quelle est la démarche que vous faites pour la rouverture d'autres chaînes?
Notre profession est envahie par les gens qui n'ont rien à voir avec le journalisme. Nous, nous applaudissons parce que nous sommes dans un état de droit. On ne peut pas fonctionner. On s'est dit du jour au lendemain, on se réveille, on crée sa chaîne de radio et de télévision. Et on dit qu'on est devenu journaliste. Vous savez que la loi sur l'exercice de la liberté de la presse dans notre pays, la loi 096, est claire là-dessus. Hein? Vous allez prendre un cordonnier, c'est pas moi, je ne suis pas contre les cordonniers. Bon, du jour au lendemain, il est journaliste parce qu'il sait parler au micro, tout ça. Non, il faut qu'on revoie les choses.
Et il peut parler des souliers.
C'est bien, mais il n'est pas prétendre qu'il est journaliste.
Merci beaucoup.
Et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté. Je vous retrouve à 12h30 pour un bulletin d'information.